chers auditeurs, bonsoir. Il est 18h passé de 12 minutes. Vous écoutez Radio Campus Tours sur le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez. Et ce soir, je ne suis pas seule dans le studio puisque je suis avec deux chroniqueuses. Bonsoir Julia.
Bonsoir.
Et bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Alors, vous nous avez préparé chacune une chronique et une pause musicale. Julia, je crois que tu commences par nous parler de biodiversité.
Exactement. Alors, c'est un sujet d'actualité parce qu'effectivement, depuis 3 ans, il y a 150 scientifiques qui étudient la biodiversité. Et en fait, ils souhaitent faire adopter un rapport par 132 pays. Et la conclusion de ce rapport, elle est connue, la biodiversité est en danger. Et en effet, le monde, il connaît sa 6e extinction massive d'espèces animales et végétales. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, des causes, des conséquences, et bien sûr des solutions et de ce qui est mis en œuvre par la société pour y remédier. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Au sens large, la biodiversité ou la diversité biologique, ça désigne la variété ou la variabilité du monde vivant sous toutes ses formes. La biodiversité existe sous différents niveaux d'organisation, mais au sens large, il y a 3 niveaux, la diversité des gènes, des espèces et de l'écosystème. Donc comme je le disais, le monde connaît sa 6e extinction massive d'espèces animales et végétales. Le nombre de mammifères, de reptiles, d'amphibiens, d'oiseaux et de poissons a chuté d'un tiers en 25 ans, donc c'est pas rien. Selon WWF, les populations de vertébrés ont diminué de 60% par rapport aux années 1970. Selon un autre rapport encore, il y a 500 000 à 1 million d'espèces qui seraient menacées, dont beaucoup dans les prochaines décennies, donc c'est vraiment d'actualité, quoi, c'est dans pas longtemps. Cette disparition de la biodiversité, elle a des conséquences pour les êtres humains, on y reviendra tout à l'heure. Puis il ne faut pas oublier aussi que la nature, elle fournit des matières premières, il y a la pollinisation qui est importante, les océans, les forêts, etc. Mais alors du coup, comme c'est la 6e extinction massive, il y a eu effectivement 5 autres extinctions massives, et donc la dernière, elle s'est produite il y a 66 millions d'années. C'est lorsque 50% des espèces sont mortes, dont les dinosaures. Alors, quelles sont les causes de ces extinctions de cette biodiversité, en fait ? Ben, on le sait déjà, c'est notre faute. On altère notre environnement, ce qui a des effets sans précédent sur la biodiversité. Les premières causes, elles sont de nature démographique, économique et institutionnelle. En gros, on est de plus en plus nombreux et du coup, on a une demande croissante de terres et de ressources biologiques, ce qui entraîne une perte et une fragmentation des habitats, une invasion biologique, la surexploitation des espèces, la pollution, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais pour nous les humains, ça entraîne aussi une insécurité alimentaire et génétique, une vulnérabilité contre les inondations et les catastrophes naturelles, ça affecte notre santé, ça c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Et au niveau des disponibilités, de la qualité en eau, et bah, c'est pas top top non plus. Et donc, on va passer aux solutions. Comment on y remédie dans notre quotidien, tout simplement. Mais ça, on le dit, on le répète suffisamment aussi par rapport aux déchets, au tri sélectif, faire attention aux emballages, à notre consommation des produits. Il faut faire attention de d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués, avec quelles énergies. À nos déplacements quotidiens, il faut prendre les transports en commun, le vélo, la trottinette, etc., plutôt que de prendre la voiture tout le temps. Il faut faire attention à notre alimentation, tout comme notre consommation de produits, vérifier d'où est-ce que ça provient, sur quels animaux, quels ont été leurs moyens, les animaux, comment ils ont été traités, les végétaux, comment ils ont été traités aussi, s'il n'y a pas eu de pesticides, etc. Il faut faire attention à notre consommation d'énergie, bien sûr. Les énergies comme l'eau, l'électricité, les énergies fossiles. Et puis, je voulais passer aussi à quelque chose qui... Comment dire ? C'est plutôt encourageant. Ce sont les étudiants qui font grève pour le climat. Donc, en fait, effectivement, il y a un appel à la grève scolaire qui a été lancé dans plusieurs pays dans le monde. Ce mouvement, il a été initié par la Suédoise Greta Thunberg de 16 ans. En fait, depuis cet été, cette élève, elle sèche les cours le vendredi pour manifester devant le Parlement de son pays. Et donc, en fait, elle réclame une action urgente pour lutter contre le dérèglement climatique lié aux activités humaines et donc entraînant toutes les conséquences dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, depuis le début de sa mobilisation, Greta Thunberg a été suivie par les jeunes de plusieurs pays. Et en France, des collégiens, des lycéens et des étudiants se mobilisent depuis plusieurs mois. Et effectivement, par exemple, le 22 février, il y a plus de 1000 jeunes qui ont manifesté à Paris pour réclamer des actions contre le réchauffement climatique. Il y a 2,15 millions de personnes qui ont signé une pétition lancée le 18 décembre dernier en soutien à l'affaire du siècle. Et il y a plus de 135 grèves de l'école qui sont prévues en France. Et plus de 80 pays ont prévu aussi des grèves pour le climat. Donc c'est... On est sur la bonne voie, il faut y croire, mais il faut y aller maintenant, il faut agir tout de suite, car c'est important.
Merci Julia pour cette chronique sur la défense de notre planète. Et toi, est-ce que, à ton échelle, tu mets en place des actions? Est-ce que tu sollicites tes proches pour les... qu'ils agissent aussi pour l'environnement?
Oui, effectivement, déjà au niveau du tri des déchets, même je me déplace beaucoup à pied. Je sais qu'à la maison, on a des panneaux solaires, on met en place des choses comme ça, le compost. J'essaye quand même, c'est difficile, hein, je vais pas dire que c'est facile, mais il faut essayer comme ça, et on essaye chez moi en tout cas de faire attention.
Est-ce que tu penses que l'idée de la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui peut-être va toucher plus les jeunes gens qui ont ton âge, ou que c'est plus difficile de faire bouger les gens un peu plus âgés?
Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Mais après, comme nous, effectivement, on est jeunes, ça concerne notre avenir et celui de nos enfants. Donc je pense que oui, ça peut toucher plusieurs personnes de notre âge, mais ça touche tout le monde. Moi, je suis sûre que ça touche tout le monde, petit et grand.
Je me tourne vers Catherine. Catherine, est-ce que tu mets en place aussi des choses pour ces questions-là?
Actuellement, pas trop. Parce que du coup, j'ai pas trop l'occasion de le faire. Sauf que j'ai l'intention pendant les vacances, si possible, d'aller faire du bénévolat dans tout ce qui est association. Bien sûr, comme Julia, je fais attention au tri des déchets, tout ça. Les différentes ressources que j'utilise et puis... bien sûr, l'énergie, les économies d'énergie et tout ça, ce genre de choses.
C'est vrai qu'il y a des choses assez simples, hein. Par exemple, de ne pas laisser l'eau couler quand on est sous la douche, penser à éteindre plutôt les lumières.
Il y a des choses simples, mais qu'il faut savoir, en fait. On n'y pense pas forcément. Et c'est important. Rien que ça, c'est important. Si tout le monde faisait des micro-gestes comme ça, ça changerait beaucoup de choses déjà.
Voilà, d'ailleurs, au passage, chantons les louanges du shampoing, qui n'est pas en flacon. Vous savez, je ne sais plus comment on dit, le shampoing...
Je ne sais pas du tout.
C'est du shampoing compressé, en fait, c'est un galet.
Ouais.
Et du coup, il est sans bouteille, sans emballage. Et en fait, c'est comme un savon pour les mains.
Les savons de Marseille.
Voilà, ça ressemble à du savon, mais c'est du shampoing, en fait. Et du coup, ça économise des milliers de bouteilles.
Et voilà, lançons-nous dans la production du shampoing comme ça.
Et faisons une pause musicale, Julia. Tu as choisi aussi une musique. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est et pourquoi tu as choisi ça?
Et c'est Je suis un homme de Zazie. Alors, faut bien écouter les paroles parce que justement, ça a un lien avec la bêtise humaine et les conséquences que ça a sur notre planète. C'est très intéressant comme chanson quand on écoute les paroles.
Ah, la bêtise humaine, un sujet sans fin. Donc, nous écoutons Zazie sur Radio Campus Tours.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution.
Zazie, je suis un homme sur Radio Campus Tour. C'était une propos musicale de Julia. Merci Julia. Et je crois, Catherine, que c'est ton tour. Tu as une chronique cinéma à nous proposer. Alors nous t'écoutons.
J'ai choisi de parler du cinéma déjà parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Parce que je pense avoir toujours été une bonne spectatrice. Et puis surtout parce que c'est d'actualité en ce moment par rapport au Festival de Cannes. Donc déjà, j'ai préféré faire un petit retour sur le côté historique du cinéma. Donc déjà quelques dates, comme en 1895, où il y a eu le premier essai de film musical par William Kennedy Laurie Dickson. Donc... le cinéma avait déjà été inventé pas longtemps avant par les frères Lumière. Et il y a eu 1901 aussi, avec le premier film en couleur. Et en 1932, le premier dessin animé en couleur, dont la Silly Symphonie des arbres et des fleurs de Walt Disney, qui est un cinéaste très connu, qui a obtenu en 1933 un Oscar pour la Silly Symphonie des Trois Petits Cochons. En 1937, Vuillermoz et Jeanne soumettent à Zeil, donc le ministre des Beaux-Arts, une idée d'un festival international de cinéma. Et c'est le 26 décembre 1938 que Zeil acceptera. En 1939, Jean-Louis Lumière acceptera également d'être PDT du Festival de Cannes. Et c'est seulement en 1946 qu'aura lieu le premier Festival de Cannes en raison de l'édition annulée de 1939. On peut pas parler non plus du cinéma sans parler de Hollywood, qui est une très grosse industrie, qui est très connue également. C'est là-bas que sont les plus grosses maisons de studios... De cinéma. Donc Hollywood, ça signifie bois de houx, qui est c'est un quartier de la ville américaine de Los Angeles en Californie, et c'est situé au nord-ouest de downtown Los Angeles. C'est en fait en 1911, le Nestor Studio sera le premier studio de cinéma qui s'installera là-bas. Et c'est dans les années 1880, donc un couple originaire du Kansas, Harvey Anderson Wilcox et Daida Wilcox Beveridge, qui ont décidé de déménager depuis Topeka jusqu'à Los Angeles. Et c'est en 1886 que Wilcox achète ses 0,6 km² de terre dans la campagne à l'ouest de la ville. C'est Daida Wilcox qui a choisi le nom de Hollywood pour sa propriété en référence à une colonie de migrants allemands de l'Ohio nommée ainsi. La sonorité du mot lui a plu et le ranch est baptisé Hollywood. Avec sa femme comme conseillère, Harvey Wilcox trace la rue principale de Hollywood, très connue, à laquelle il donnera le nom de Prospect Avenue, qui est aujourd'hui Hollywood Boulevard. Le premier film tourné à Hollywood est The Count of Monte Cristo de Francis Boggs en 1908. Donc Le Comte de Monte Cristo, qui est également un livre très connu. C'est au cours des années 1910 que Hollywood est devenu le principal centre de production de la nouvelle industrie cinématographique. Donc les années 1930 ont vu l'expansion des 5 grandes compagnies installées là-bas, qui sont Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros., RKO Pictures et la Fox, avec un doublement du nombre de travailleurs permanents qui passe de 30 000 à 75 000. Également, je voulais parler de Walt Disney, qui est très très connu déjà, qui a également installé ses studios à Hollywood, il me semble, et donc qui de nos jours est encore et beaucoup d'actualité. Donc Walter Elias Disney, dit Walt Disney, était un producteur, réalisateur, scénariste et animateur américain. Il est né le 5 décembre 1909 à Chicago, donc dans l'Illinois, et eh bien non, il est mort le 15 décembre 1966 à Burbank, en Californie. Donc ce monsieur est bien mort. Et lui et son équipe ont créé un bon nombre de personnages animés les plus connus au monde, dont son alter ego Mickey Mouse. Je voulais aussi faire une petite liste des meilleurs cinéastes et meilleurs acteurs qu'on a pu connaître, donc de toutes les générations. Il y a eu dans les cinéastes Clint Eastwood, Nanni Moretti, David Cronenberg, Martin Scorsese, Tim Burton, David Lynch et Quentin Tarantino, donc quelques-uns très très connus. Et les meilleurs acteurs, donc pareil, de toutes les générations. On a eu Marlon Brando, Charlie Chaplin, Laurence Olivier, Robert De Niro, Al Pacino, Buster Keaton, Dustin Hoffman, Jean Gabin, Tom Hanks et Gérard Depardieu. Cette année, donc, il y a eu le 72e Festival de Cannes. Et j'ai pris quelques films qui ont été présentés, comme The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, Le Trait de Marzo Bellocchio, The Wild Goose Lake de Diao Yinan, et Les Misérables, donc sûrement un remake encore, de Lajlai. Puisque c'est le cinéma est quelque chose qui me tient très à cœur, j'ai forcément un idole, donc je ne me suis pas privée pour essayer de faire une petite présentation, essayer un peu de divulguer. Et il s'appelle Thomas Brody Sangster. Il a joué dans Love Actually, dans Nanny McPhee, dans Le Labyrinthe. Il joue comme doubleur dans Phineas and Ferb et il a fait une partie de Game of Thrones. Et en fait, ce monsieur est né le 16 mai 1990 à Southwark. Donc c'est un acteur de cinéma mais aussi de télévision et c'est également un musicien anglais d'origine écossaise. étant musicien, il a fait également quelques clips, dont 30 Minutes Break, Rain, Tired of Lying aussi. Et donc, personnellement, je voulais finir sur mon avis et dire que, au final, le cinéma, c'est... Enfin, il y a pas très longtemps, j'ai beaucoup aimé un film que j'ai présenté, donc The Dead Don't Die. Donc, je ne l'ai pas encore vu, mais rien que la thématique du film m'a beaucoup plu, parce que pour rejoindre Julia, ça parlait de la destruction de l'humanité par une apocalypse zombie due à les impacts du climat. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment dans le thème. Donc, c'est pour ça que je conseille vivement d'aller voir ce film, puisqu'il a l'air vraiment très bien. Et au final, c'est un film très engagé, très en rapport avec l'actualité. Et puis, voilà, c'est tout.
Si j'allume pas mon micro, on risque pas de m'entendre. Merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique cinéma. Et alors moi, j'ai une question pour toi, Catherine, mais aussi bien pour Julia et peut-être pour nos deux invitées secrètes qui sont là aussi en studio. À votre avis, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'un film au cinéma est un bon film ? Pourquoi c'est différent d'aller au cinéma ? Pourquoi c'est pas pareil que de regarder un film sur Netflix ? Qu'est-ce qui fait que c'est différent ? Catherine, est-ce que tu...
Par rapport au message, enfin, moi je sais que je préfère aller regarder un film qui a un vrai message, qui est plutôt engagé, plutôt qu'un film juste pour regarder un film. Donc, personnellement, je préfère les films avec des messages, même s'ils sont pas très très bien faits. Au moins, ils essayent de mettre un sens dans l'histoire.
Alors moi, personnellement, je ne vais jamais sur Netflix, alors je ne connais absolument pas la différence entre Netflix et le cinéma, le vrai cinéma, donc je ne pourrais pas en dire grand-chose, mais je pense que Cathy a raison au niveau des messages passés, de la qualité du film. À mon avis, c'est mieux lorsque c'est du cinéma, du vrai cinéma.
Ouais, moi ça m'interroge parce que j'ai l'impression quand même que le fait d'aller au cinéma, déjà on se déplace de chez soi et d'être avec des gens qu'on connaît pas forcément, d'être l'idée qu'on est ensemble quelque part avec d'autres personnes.
Bah, le film nous réunit en fait.
Voilà. Ouais, c'est ça en fait, c'est un peu une activité qui consiste à nous sociabiliser. Puis au final, si on va tous voir le même film, c'est qu'on est tous un peu unis par le même dessin, en quelque sorte.
Moi, j'aime bien l'idée, comment dire, l'espèce de magie, en fait, de dire, bah tiens, on est dans un espace-temps avec d'autres personnes. Et je trouve qu'il y a... J'ai l'impression que cette magie-là est c'est pas pareil, en fait, de regarder une série sur un écran chez soi. J'ai l'impression que c'est...
Après, regarder une série sur un écran chez soi, on peut le faire avec des amis aussi. Mais c'est vrai que ça n'a pas le même sens de réunion que lorsque l'on est au cinéma avec des inconnus, en fait. En fait, on a l'impression de se connaître à travers un film. Lorsqu'on va au cinéma, on rencontre des personnes à travers un film comme ça.
Que vous voulez dire quelque chose, invité secrète qui ne vous êtes pas encore présenté. Bonjour.
Bonjour. Donc, Émilie, je voulais aussi... Je ne sais pas si vous êtes allée récemment aux Deux Lions. Il y a une salle de cinéma, une nouvelle salle de cinéma qui s'est ouverte. Où là, vous avez des écrans, enfin, c'est pas vraiment des écrans, mais vous avez des lumières tout autour de la salle. Les sièges se baissent, enfin, c'est un truc de malade, en fait. Et je pense que, ouais, on vit le film en puissance 10. C'est vraiment... Je sais pas si vous y êtes allé.
Non, jamais.
Non ?
Je connais pas du tout.
Non, non plus. J'étais déjà allée au De Lyon, tout ça, pour regarder des films. J'avais entendu parler qu'il y avait une nouvelle salle, ouais, qui allait sûrement ouvrir, mais je savais pas du tout que c'était ce genre-là.
Ça m'intrigue beaucoup.
Oui, moi aussi. C'est pas mal, faut y aller.
D'accord.
Okay.
J'aime bien aussi l'idée, enfin, ce que tu disais, Catherine, sur dire bah, le film à message, je veux dire, il y a quelque chose dedans, et peut-être que la façon de le présenter peut être parfois un peu maladroite, mais ou alors parce qu'il n'y a pas des énormes moyens... comme des films à gros budget par exemple, mais c'est pas parce que le film en soi peut sembler fragile qu'il est moins intéressant, parce qu'il y a...
Bah, en fait c'est exactement ça. Déjà, j'avais peut-être un exemple, donc je sais pas s'il est bon, Mais moi, à ma connaissance, déjà, le film Intouchable, donc qui est un film français, avait un très très grand sens pour moi. Bah, déjà, moi qui suis beaucoup dans l'aide à la personne, j'ai trouvé ce film très touchant. Et au final, j'ai entendu dire qu'ils n'avaient pas non plus beaucoup de moyens. Parce que c'est connu qu'en France, on n'a pas non plus des gros studios. Mais on arrive quand même à faire des bons films comme Intouchable. Et moi, je me suis dit que, au final, c'était pas un très très gros truc. Mais au final, ça a fini par être très connu dans le sens où il y avait un message très très fort dedans.
Et ça a été repris par plusieurs pays d'ailleurs, Intouchable. Il a été, je crois, rejoué par d'autres acteurs, d'autres pays. Tellement il a plu, peut-être pas au monde entier, mais à beaucoup d'autres pays. Donc effectivement, on n'avait pas les moyens d'Hollywood, mais ça a bien, le message est passé. Il y avait un message malgré le manque de moyens, ou les moyens plus minimes.
Mais Paris, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Paris, c'est la première capitale mondiale qui tourne le plus de films en fait dans le monde.
D'ailleurs, il y a un cinéma pauvre entre guillemets. C'est le cinéma documentaire, c'est-à-dire là où il y a pas de, où vraiment on cherche pas la fiction, où il y a très peu d'effets, d'effets spéciaux, parce que l'idée c'est d'entrer dans le quotidien de personnes, de raconter ce qu'ils vivent. Donc déjà, je dis raconter. Donc est-ce que ça reste encore du documentaire? Mais voilà, et j'ai l'impression que ce cinéma-là, ça rejoint ce que tu disais aussi, Catherine, qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais à côté de ça, il y a souvent un message fort. Donc, je ne sais pas si c'est un cinéma qui t'intéresse aussi.
En fait, j'avais jamais entendu parler, mais maintenant qu'on me dit ça, en fait, ça m'intrigue. Donc je pense que je vais aller regarder. Puis au final, je pense que si ça s'appelle le cinéma documentaire, c'est que ça doit être quelque chose de plus éducatif, je pense. Donc c'est sûrement plus intéressant que d'autres films qui sont juste là pour qu'on regarde un truc, quoi.
Mais alors en plus, peut-être qu'il y a des gens qui seront pas d'accord, hein, n'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord à le dire, mais parce que dans le cinéma documentaire, c'est pas documentaire au sens les documentaires animaliers, par exemple, qu'on peut voir sur Arte ou des choses comme ça. C'est y a vraiment des films qui relèvent du cinéma documentaire qui sont des œuvres d'art, parce que y a, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, il y a quand même des gens qui sont vraiment des artistes et qui prennent des risques en faisant des films, qui font vraiment des choix de plans, de façon de filmer, d'écriture, même ils racontent quelque chose, et ça donne vraiment des choses étonnantes et très intéressantes. Donc oui, peut-être que c'est quelque chose qui peut t'intéresser.
Le but, moi je trouve aussi, c'est que ça permet de ressentir, d'avoir beaucoup d'émotions, et documentaires ou films, ou même maintenant on peut voir des spectacles aussi retransmis dans les cinémas, des concerts. Le but premier, c'est vraiment le message et l'émotion que ça va nous apporter, et le fait de le voir en grand écran, dans le noir, avec un son quand même assez élevé, ça, on a l'impression qu'on est entièrement absorbé par l'histoire, ou en tout cas par ce qu'on voit. Ça fait, on ressent beaucoup de choses.
C'est vrai.
Mais en plus, c'est un peu curieux, mais dans l'idée de la perception, de quand on est environné en fait de sons, environné d'autres personnes, même si on est dans un super fauteuil où on est allongé d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on, c'est pas qu'on disparaît, mais en fait on dépasse notre perception de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on oublie, je suis telle personne, j'ai tel âge. On oublie ça le temps du film, on est un peu pas débarrassé de soi-même, mais du coup on arrive à créer autre chose avec les personnes qui sont autour de nous. Et je pense que c'est vrai pour un spectacle de danse, pour une pièce de théâtre.
C'est un moment de coupure en fait. Il y a plus rien qui existe, et en fait on est dans le monde du film pendant un instant. On oublie tout ce qu'il y a autour de nous, on oublie nous-mêmes, comme vous disiez. Et c'est vrai que c'est le film, et ça permet de voyager, et comme disait Delphine, de faire voyager partout, de transmettre des émotions. Et effectivement, oui, on est absorbé, il n'y a plus rien, c'est une bulle, un moyen de coupure, je trouve.
Mais au final, moi je sais que quand je vais au cinéma, Quand je regarde un film, au début, je vais pas être totalement dedans, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça me fait un peu penser à de la méditation. Comme si au début, on commençait déjà par oublier un peu qui on était, puis qu'au final, on était un peu projeté dans le personnage principal, et qu'on était un peu à sa place, et au final, on a l'impression de vivre ce que lui vit, et on ressent de la même manière que lui les mêmes émotions. Et c'est ça qui est un peu magique, je trouve, parce que on n'est plus seulement nous, on est aussi la personne qui vit les choses dans le film, tout en restant à notre place.
Il y a une répercussion, en fait, sur notre manière d'être aussi, un peu dans l'émotion et le message que veut faire passer Cinéaste. Des fois, ça nous renvoie...
À nous.
Oui, à nous, et à des réflexions ou des choses sur lesquelles on n'aurait pas pensé.
On s'identifie.
Vive le cinéma, mais oui, bien sûr que ça, j'imagine que ça arrivait à tout le monde de sortir d'un film en s'imaginant être le héros avec des super pouvoirs ou que sais-je.
Bah, j'avoue que moi ça m'est déjà arrivé.
Personnellement. Ça arrivait à tout le monde.
Et là, il faut reprendre le tram, mais enfin moi, c'est un autre problème. Catherine, tu nous as choisi une pause musicale aussi, alors qu'est-ce que c'est et pourquoi tu nous proposes ça?
J'ai choisi Dark Side de Alan Walker. Donc déjà, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Déjà parce que Dark Side, ça signifie côté sombre. Et vu que je trouvais pas quelque chose vraiment dans le thème du cinéma, j'ai pris cette chanson non seulement pour le côté du clip qui était vraiment... j'incite à aller le voir. Parce que cinématographiquement, c'était assez intéressant. Et... Aussi par rapport à la nature, au niveau du développement durable, donc ce qui se passe en ce moment, que Julia, tout ce que Julia a parlé tout à l'heure, c'était plus le côté sombre, tout ça, donc de la bêtise humaine, que j'ai préféré souligner, et également référence que j'ai fait à une personne qui a été un très grand tournant dans ma vie, qui n'écoute sûrement pas cette radio. Et donc voilà, au final, j'ai fait d'une pierre trois coups.
Alors, nous écoutons Alan Walker, Dark Side sur Radio Campus Tours. C'est un choix de Catherine.
Shadows know.
Walker, Dark Side sur Radio Campus Tours. Vous êtes toujours sur le 99.5 FM. Et ce soir, nous avions deux chroniques. Une chronique autour de l'environnement, de la protection de l'environnement et de la biodiversité par Julia. Et une chronique cinéma par Catherine. Merci beaucoup à vous d'être venu dans nos studios pour présenter ces choses qui vous tiennent autant à cœur. Alors, je me tourne vers vous. Est-ce que vous auriez peut-être un film, un livre ou quelque chose à proposer à nos auditeurs ?
Alors moi, j'ai été voir un film récemment qui s'appelle Mon bébé. Je ne sais plus par qui il a été réalisé, mais je sais qu'il y a Sandrine Kimberlin qui joue dedans. Et c'est un magnifique film sur la séparation entre une mère et sa grande fille qui va devoir quitter la maison. C'est plein d'humour, d'émotion et ça fait passer un beau message pour toutes les mamans qui ont du mal à laisser partir leur enfant. Et pour nous, ados, ça nous fait réaliser des choses aussi. Donc je trouve vraiment que c'est pas mal et c'est pour tout âge, quoi.
Donc moi, comme tout à l'heure, j'incite à aller voir The Dead Don't Die. Donc je l'ai pas encore vu, mais je sais déjà que c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire. Donc pour les fans déjà d'apocalypse zombie, je pense que ça peut être intéressant. Et puis sûrement s'il est primé à Cannes, je pense que ça peut être aussi pas mal de voir un peu si le message est bien passé et s'il a été respecté.
Je me tourne vers nos deux autres invités présents en studio. Est-ce que vous auriez aussi quelque chose à recommander à nos auditeurs ?
Alors moi, personnellement, le dernier film vu, c'est Rebelle. Je pense que Delphine a fait
depuis. Alors, c'est un peu décalé. On s'est bien marré.
C'était comique. Après, c'est avec Audrey Lamy. Et puis Cécile de France, et la troisième, celle qui fait des chiens volants.
Yolande Moreau.
Oui. Ouais. Et c'était drôle. Enfin, c'est un petit début un peu spé, mais je laisserai découvrir les auditeurs. Voilà.
Et Delphine ?
Eh ben, moi, je vais plutôt conseiller un livre. De souvenir, je crois que ça s'appelle Le premier jour du reste de ma vie. Voilà. Je ne sais plus du tout l'auteur. En tout cas, c'est l'histoire d'une maman qui est un peu déprimée et qui va entamer grâce à une rencontre une nouvelle vie, se ressourcer et s'éveiller grâce à cette rencontre. Alors elle va essayer de changer de travail, elle va essayer d'être mieux et c'est vrai que c'est... Alors dit comme ça, c'est un peu déprimant, mais c'est un livre très sympathique et qui fait écho énormément, en tout cas, je pense aussi pour les jeunes, savoir trouver sa ressource pour rebondir.
Alors ce livre, Google, merci, il me dit que c'est un livre de Virginie Grimaldi, il me semble, ouais. C'est ça, et Mon bébé, c'est donc avec Sandrine Kimberlin, pardon pour l'accent, dont parlait Julia, c'est un film de Lisa Azuelos. Voilà, merci mesdames à toutes les quatre d'être venues, à Radio Campus Tours pour nous parler de mille choses, cinéma, biodiversité et conseils cinéma et lecture. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés et bien sûr, on vous souhaite à tous une excellente soirée à l'écoute de nos excellents programmes. Bonne soirée à tous.
Au revoir.